Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Cette parole du Seigneur, à quel moment l'a-t-il prononcée ? Il l'a prononcée dans les derniers entretiens qu'il a eus avant de souffrir sa passion sur la croix, de livrer sa vie jusqu'au bout. Et par avance, il nous a donné déjà tous ses secrets. Tout ce que le Père m'a fait connaître, je vous l'ai fait connaître. Et c'est dans ses derniers entretiens qu'il parle plus précisément du Saint-Esprit, dont il avait peu parlé auparavant, comme si le secret de sa vie, il voulait le communiquer à ceux qu'il n'appelle plus des serviteurs, mais des amis. C'est au cours de ce repas qu'il a lavé les pieds de ses disciples, c'est au cours de ce repas aussi qu'il a pris le vêtement de serviteur pour laver les pieds de ses apôtres. Nous allons donc essayer ce matin de recevoir toute la force, tout le réconfort, toute la joie que contient cette parole de Jésus « Je vous appelle mes amis ». Dans un premier temps, nous essaierons de nous mettre face à l'expérience humaine de l'amitié. Nous pourrons nous demander à quelles conditions une amitié peut-elle durer longtemps et même s'approfondir, devenir plus belle. Ce sera le premier temps. Dans un deuxième temps, nous nous interrogerons sur cette amitié, il faudrait dire unique, inséparablement humaine et divine, que le Seigneur Jésus veut nous donner, dans laquelle il veut nous faire entrer. De quelle sorte d'amitié s'agit-il quand Jésus dit « Je vous appelle mes amis » ? Et enfin, dans un troisième et dernier temps, je voudrais indiquer quelques rendez-vous certains avec la grâce de l'amitié, des lieux spirituels dans lesquels, quand nous nous y rendons, nous goûtons, nous sommes réconfortés de manière absolument certaine par l'amitié de Jésus. Voilà pour le plan. Donc, expérience humaine de l'amitié. De quelle amitié s'agit-il quand Jésus nous appelle ses amis ? C'est une amitié unique qui, d'une certaine façon, n'est pas tout à fait comme les autres amitiés. Il ne s'ajoute pas à la liste de nos amis. Bon. Et troisièmement, quels sont les lieux spirituels, les rendez-vous de bonheur qui ne décevront jamais et qui nous replongeront toujours dans l'amitié ? Voilà. Alors, j'ai été très heureux quand le Père Guédas m'a invité parce qu'il ne m'a pas laissé dans l'angoisse de choisir le sujet. Et j'aime beaucoup cela. Donc, il m'a dit, il faut parler à partir de ce verset du chapitre 15 de Saint Jean, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Donc, premier temps, pour parler de l'amitié, on pourrait évoquer déjà beaucoup d'expériences, beaucoup d'auteurs. Je voudrais m'appuyer bien sûr sur saint François de Sales qui dit ceci. Pour des chrétiens vivant dans le monde, il pense ici non pas aux religieux, aux religieuses, en tout cas monastiques, il ne pense pas non plus aux prêtres, il pense à l'immense majorité des chrétiens, c'est-à-dire à vous tous, la plupart d'entre vous, qui n'avez pas fait des vœux pour rester dans un monastère toute votre vie. Et à cela, il dit, donc pour des chrétiens vivant dans le monde, il est nécessaire de s'aider les uns les autres par des amitiés saintes. Pour vivre en chrétien dans le monde, ça devient difficile si on n'est pas aidé, si on ne s'appuie pas sur des amitiés, il ajoute « saintes ». Toutes les amitiés ne sont pas saintes. Voilà. Quand nous pensons à l'amitié, qu'est-ce que nous éprouvons ? Quelque chose de l'ordre quand même de la douceur. Quelque chose de l'ordre aussi de l'affection, et en même temps qui n'est pas l'affection conjugale. Quelque chose de l'ordre de la sortie d'une solitude. Quelque chose au fond de rare, mais d'irremplaçable dans la vie. Et saint François de Sales dit que l'amitié, c'est une douce et affectueuse unité, conformité de sentiments sur les choses de Dieu et sur les choses de la vie humaine. Une douce et affectueuse conformité de sentiments concernant les choses divines et humaines. Comment comprendre cela ? Donc, François de Sales, pensant à l'amitié belle, la vraie amitié, la véritable amitié, parle de douceur, parle d'affection. Et au fond, ce sont les mots aussi qu'on utilise pour l'amour. Et il parle de cette douceur, de cette affection qui est éprouvée lorsqu'il y a un échange au niveau de ce que nous portons dans le cœur, pas simplement des informations, pas simplement des idées, mais des choses que nous portons affectivement en nous, un échange à ce niveau-là, dans lequel il se réalise une forme d'union de ce qui est exprimé, une union de sentiments, à la fois sur les choses qui touchent à Dieu et qui touchent à la vie humaine. Écoutons François de Sales lorsqu'il parle de l'amitié véritable. C'est dans l'introduction à la vie dévote, au chapitre 19e. Aimez, dit François de Sales, chacun d'une grande charité. Mais il est des personnes avec lesquelles vous pouvez échanger et communier sur le plan de la vertu. C'est à ces personnes-là que vous devez réserver votre amitié. Plus la vertu sera présente dans l'amitié, meilleure elle sera. Si vous échangez des connaissances, votre amitié, bien sûr, est louable. Plus encore, si vous cherchez ensemble la prudence, la tempérance, la force, la justice. Mais si votre amitié est fondée, votre relation est fondée sur la charité, l'amour qui vient de Dieu, c'est-à-dire la vie spirituelle, alors votre amitié sera merveilleusement précieuse. Elle sera excellente parce qu'elle vient de Dieu, parce qu'elle tend vers Dieu. Et parce qu'en Dieu, elle durera toujours. Je posais la question tout à l'heure, à quelles conditions les amitiés humaines, les belles amitiés, qui s'échangent des biens qui sont nobles, qui sont beaux, à quelles conditions durent-elles dans la vie ? Nous savons tous que les amitiés, quelquefois, sont fragiles aussi, et que quelque chose peut détruire, en tout cas abîmer les relations d'amitié, même les plus belles. Et François de Sales dit, si elle vient de Dieu, si elle tend vers Dieu, la relation qui s'établit entre des personnes va durer éternellement. Oh, qu'il est bon d'aimer sur la terre comme on aime au ciel, et d'apprendre déjà à s'aimer les uns les autres comme nous nous aimerons au ciel. François de Sales ne parle pas ici simplement du simple amour que nous devons à toute personne humaine. Nous devons la charité pour tout homme. Mais il parle de l'amitié spirituelle lorsque deux ou trois personnes communient vraiment dans la vie spirituelle et forment comme un seul esprit. Ce qui fait d'ailleurs que les bonnes conversations avec les amis, au fond, sont toujours trop courtes. Enfin, on voudrait qu'elles durent toujours. Et quand on quitte cet ami, on est grandi en mieux. Il n'y a pas eu l'ombre d'une chose mauvaise échangée. le regard sur les autres n'a été que lumineux. Et on a pu échanger, comme on dit, cœur à cœur, c'est-à-dire que on a pu être compris par l'autre comme si l'autre était un autre nous-mêmes. Nous n'avons pas eu besoin de prendre des gants, de nous casser la tête pour trouver les mots. L'ami est celui qui nous reçoit et que nous recevons dans une totale bienveillance, ce qui ne veut pas dire une complicité. Et du coup, les choses qui sont échangées, qui situent le niveau de l'amitié, quand elles sont les choses qui touchent au mystère de Dieu et de la vie humaine, alors cette amitié est bonne, elle est vraie, véritable. Oh, comme il est bon et agréable pour des frères de vivre ensemble. Chaque cœur communique à l'autre ce qu'il a de meilleur. Chaque cœur communique à l'autre ce qu'il a de meilleur dans un échange incessant, si bien qu'on peut dire que Dieu a répandu sur cette amitié sa bénédiction et la vie pour toujours. Voilà, je viens de lire le début du chapitre 19e de François de Sales dans l'introduction à la vie spirituelle sur l'amitié véritable. Mais toutes les amitiés ne se valent pas. Même le mot ami aujourd'hui désigne beaucoup de choses. Il y a des personnes qui ont par exemple des amis sur Facebook, je crois. Voilà, c'est simplement des relations, c'est des personnes avec qui on est content de temps en temps de communiquer telle ou telle information. Tous ne sont pas des amis au sens d'une conversation incessante où on se communique le meilleur de soi-même. Il ne faut pas minimiser ces réseaux d'amitié. Mais en même temps, l'amitié véritable ici ne se fait pas simplement avec un immense groupe de gens qui sont des sympathisants de la cause. Toutes les amitiés ne se valent pas. Il y a des amitiés qui fondent comme neige au soleil et qui pour un rien s'évanouissent. Ce ne sont pas des amitiés véritables. Souvent, ces amitiés-là, qui sont, disons, superficielles, je ne dis pas mauvaises, je dis superficielles, reposent bien souvent, il faut avouer, sur le simple plaisir que chacun éprouve en présence de l'autre. À condition que l'autre, évidemment, ne livre rien de lui-même, parce que très vite, ça va devenir en différence avec nous, et que tout ce qui tend à la fusion n'est jamais de l'amitié sérieuse. La communion des trois personnes divines n'a rien d'une fusion, mais d'un dialogue incessant, où chaque personne est unique. Et une personne ne se confond pas avec l'autre personne. Prenez des abeilles, vous savez que c'est l'image qu'aime beaucoup François de Sales. Eh bien, des abeilles vont butiner sur les fleurs. Mais selon les fleurs sur lesquelles elles butinent, ça va faire du miel plus ou moins bon. Alors, moi je ne suis pas botaniste, mais il y en a peut-être parmi vous qui savent qu'il y a certaines fleurs qui donnent du miel excellent. Et puis, imaginons par exemple que les abeilles n'aient qu'une plante de basse qualité, pour ne pas dire mauvaise, mais que quand même elles soient attirées par les fleurs parce qu'il y a un peu de sucre. Il ne faut pas manger trop de confiture, hein. Tout à l'heure, j'ai été effaré quand j'ai entendu le chiffre. Je me suis dit, les pauvres, alors, heureusement qu'ils obéissent pas à la lettre, hein, qu'ils comprennent les choses spirituellement, parce que sinon... Donc, les abeilles peuvent faire un très bon miel en fonction des fleurs sur lesquelles elles butinent. Et quand plusieurs abeilles butinent sur des belles fleurs, ben le miel, c'est le résultat de cet échange qui s'est passé, mais parce que l'échange a porté sur des bonnes choses. Hélas, il peut y avoir des amitiés qui se targuent du mot d'amitié, mais qui sont des complicités mauvaises, disons-le, et qui n'ont rien à voir avec l'échange de biens spirituels, mais plutôt l'échange de choses qui finalement replient sur soi ou isolent des autres. En rien, ces amitiés-là ne sont selon Dieu. En tout cas, elles sont appelées à fondre, comme dit François de Sales, comme neige au soleil. Les amitiés, dit-il, se diversifient selon la nature de ce qui est échangé. Je vous lis le passage. C'est au numéro 251, toujours de l'introduction à la vie dévote. Les amitiés se diversifient selon la nature de ce qui est échangé. Si les choses échangées dans l'amitié sont fausses ou illusoires, l'amitié sera fausse et illusoire. Si ce sont des vrais biens, l'amitié sera vraie. Meilleurs sont les biens échangés, meilleure sera l'amitié. Comme le miel est d'autant plus excellent que les abeilles ont butiné sur les meilleures fleurs, l'amour fondé sur l'échange des meilleurs biens sera le plus excellent. Toujours dans cette première partie sur l'expérience de l'amitié, je cite aussi un auteur particulièrement connu dans la tradition de l'Église pour être un modèle de l'amitié chrétienne. C'est celui entre de très grands priants, qui ont été évêques d'ailleurs, l'un des deux pas très longtemps parce qu'il trouvait que c'était trop difficile, c'est Basile et Grégoire de Nazianze. Voici ce que Grégoire de Nazianze dit de son ami Basile en prononçant l'homélie des funérailles de son ami Basile. On aurait cru que nous avions à nous deux une seule âme, responsable de deux corps. Et s'il ne faut pas croire ceux qui prétendent que tout est dans tout, il faut nous croire quand nous disons que nous étions l'un dans l'autre et l'un auprès de l'autre. Nous n'avions tous deux qu'une seule affaire, la vertu. Et notre vie était dirigée vers les espérances futures pour nous préparer à quitter ce monde en y renonçant déjà. C'est dans cette perspective que nous organisions toute notre vie et toute notre manière de faire. Alors, je précise que tous les deux ont été étudiants ensemble, que les deux ont été évêques, l'un à Constantinople et l'autre, je crois que c'est Laodicée, l'un à Césarée, Basile à Césarée, et Grégoire à Nazianze, d'abord à Constantinople et puis à Nazianze. Mais Basile, qui était un priant, un chercheur, a trouvé que c'était trop difficile l'expérience épiscopale et au bout de quelques mois, il a rendu son tablier. Ça n'empêche pas que c'est un immense père de l'Église qui a écrit des très belles choses sur le mystère trinitaire. Donc tous les deux se sont stimulés dans leurs études et ont collaboré ensuite au service de l'Église et ont vécu entre eux une stimulation d'amitié qui faisait donc dire cela à Grégoire en parlant de son amitié avec Basile. C'est dans cette perspective que nous organisions toute notre vie, toute notre manière de faire. Nous nous laissions conduire par la loi de Dieu en nous, nous nous laissions conduire par la loi de Dieu en nous excitant mutuellement à l'amour de la vertu. Et si ce n'est pas trop me vanter que de le dire, chacun de nous était pour l'autre une règle et un modèle qui nous permettait de distinguer le bien et le mal. Chacun porte un surnom qui lui vient de ses parents ou de son propre fond, d'après ses goûts particuliers ou ses occupations, mais pour nous, la grande affaire, le grand nom, c'était d'être chrétien et d'en porter le nom. J'aime beaucoup ce passage, en particulier pour manifester que l'amitié fait grandir, pousse au bien. Chacun des deux, dit Grégoire de Nazianze, était comme une règle de vie. Il suffisait de voir l'autre vivre pour être entraîné soi-même dans le meilleur. C'est vrai dans le meilleur de l'amour. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai connu des personnes qui, avant de se rencontrer dans les fiançailles, disons, étaient médiocres. Et il se trouve que la rencontre a permis à l'un et à l'autre de découvrir le meilleur d'eux-mêmes et de ne pas retourner dans certaines errances passées, comme si ils s'entraînaient mutuellement dans le bien. Vous comprenez ça? J'ai souvenir à Marseille d'une vieille dame qui m'avait dit un jour qu'il suffisait qu'elle pense à un de ses amis prêtres qui l'avait beaucoup aidée, et elle était ramenée toujours à faire du bien en disant « Lui me considérait tellement par le meilleur de moi-même qu'il suffisait que je pense à lui pour mieux me comporter. » Voilà. Grégoire de Nazianze et Basile disent un moment quelque chose comme ça en pensant à leur amitié. Bon, le temps passe, il faut passer aux secondes parties, surtout qu'il y en a trois. Donc, fin de la première partie, on va chanter peut-être un petit moment.
Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Je ne vous appelle plus, dit Jésus, serviteur. Et il précise que le serviteur obéit. Il n'est pas question ici d'être bon ou mauvais serviteur. Le serviteur normal obéit à ce qui lui est demandé quand les ordres sont légitimes, mais il n'est pas dans le cœur de celui qui lui donne des ordres. Il lui suffit d'exécuter ce qu'il reçoit comme un ordre légitime. Et sa joie, c'est d'obéir. Et, contrairement à ce que beaucoup pensent, lorsque nous obéissons à ce qui nous est justement demandé, nous grandissons en liberté. Aujourd'hui, c'est très difficile d'entendre ça, parce qu'on se méfie beaucoup, on pense que chacun doit décider absolument tout ce qu'il doit faire, sans demander quoi que ce soit à personne, ce qui évidemment rend terriblement triste, comme si nous devions absolument décider de tout dans notre vie. Et obéir, à condition que ce soit dans un cadre juste, permet de grandir en liberté. Voilà, ça, les parents le savent, quand il y a un enfant qui pendant la nuit pleure, l'amour fait obéir et fait se rendre au chevet de l'enfant, même si on est fatigué et même si le corps préférait rester dormir. Ces choses-là sont basiques, on pourrait citer 1000 exemples. Donc Jésus ne dit pas du tout que lui qui se reconnaît comme l'obéissant du Père, celui qui reçoit tout de son Père, ne considère pas que d'être serviteur ou servante est une chose mauvaise. Marie se reconnaît comme la servante du Seigneur. c'est-à-dire celle qui habite la maison du Seigneur 24 heures sur 24, qui n'a pas besoin des clés de la maison pour entrer et pour sortir. Elle est chez elle, chez lui. Donc, je ne vous appelle plus serviteur ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui serait mauvais ou qui serait à dépasser. Mais il dit, je vous appelle ami. On est tellement habitué à cette parole qu'on oublie de réfléchir que nous ne disons jamais quelque chose comme ça à un ami. L'amitié, par définition, est réciproque, elle est libre et elle se choisit. Nous choisissons nos amis comme on dit, on ne choisit pas sa famille. Bon, c'est des choses faciles à comprendre, mais jamais l'amitié ne s'impose. Je ne peux pas exiger de quelqu'un qui soit profondément en amitié avec moi si la personne ne le veut pas. Et donc, nous ne disons jamais, en parlant de quelqu'un, je t'appelle ami. L'autre peut dire, mais attends, nous sommes amis, mais c'est moi aussi qui le décide avec toi. Donc, dans « Je vous appelle mes amis », « Je vous appelle ami », il y a quelque chose qui est assez unique, c'est qu'une initiative est prise par Jésus et qui n'est pas la nôtre. Nous pouvons prendre l'initiative d'obéir au commandement de Dieu. Nous n'arrêtons pas d'ailleurs de recommencer. Bon. Nous n'arrêtons pas de découvrir que la loi de Dieu, c'est la loi de vie. Et que lorsque nous faisons n'importe quoi, eh bien c'est notre vie humaine qui se fracasse en mille morceaux. Et les paroles de vie ne sont pas là pour brimer l'homme, mais pour le faire entrer dans la vie. La loi ne sauve pas, dit Paul, mais celui qui méprise la loi sait ce que veut dire la mort. Bon, je parle ici de la loi de vie, des 10 paroles. Bref, nous pouvons décider, et nous avons besoin de la grâce de Dieu continuellement pour le faire, de nous convertir, de changer notre vie, d'être moins désagréable avec nos petits camarades, comme on disait jadis, etc., de nous oublier un peu pour faire plaisir, etc., etc. Et si nous avons quelques travers, ben mon Dieu, de ne pas dire « c'est pas grave » et puis de continuer à dire « les autres n'ont qu'à me prendre comme je suis ». Ben oui, enfin, si par exemple, je suis dans un couple et que j'ai décidé de jamais me laver, sous prétexte que ça économise l'eau, ben, les autres peuvent dire « mais tu sens mauvais ». Ben dis ça, c'est « t'as qu'à me prendre comme je sens et comme je suis ». Ben écoute... Bon, enfin bref, tout le monde comprend les exemples ici. On pourrait en citer beaucoup. Passer au plan de l'amitié, Jésus dit, tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Mais nous ne connaissons pas le Père sans le Fils. De nous-mêmes, nous ne connaissons pas le Père. Et de nous-mêmes, nous n'entrons pas dans l'amitié divine. Nous pouvons la désirer, nous pouvons y aspirer, mais il revient au Christ de nous y introduire. Et voilà pourquoi il dit « je vous appelle, je vous tire de la simple situation de la loi, de l'obéissance, à la situation de connaissance intérieure de ma vie ». L'amitié étant la communication de l'intime, du cœur profond, le Christ va jusqu'à, et c'est son initiative à lui, ce n'est pas nous qui pouvons le décider, en nous appelant au sens fort du mot, en nous tirant vers cette amitié avec lui, nous communique sa propre vie de Fils éternel du Père, il communique son amour. Et donc, Jésus ne dit pas simplement « vous n'êtes plus des serviteurs et puis maintenant vous êtes mes copains ». Non, ça c'est pas du tout ça. C'est « vous entrerez avec moi davantage dans la signification profonde du mystère du peuple choisi, serviteur de Dieu, serviteur des hommes, parce que je vais vous communiquer tout de moi-même, tout ce que j'ai reçu, tout ce que j'ai entendu, je vous le fais connaître ». Et jusqu'à la livraison de sa propre vie. Nul n'a d'amour plus grand que de livrer sa vie. Jésus livre sa vie. Et c'est dans cette livraison-là que s'enracine désormais ce que nous appelons l'amitié divine, l'amitié avec lui. Voilà, je voulais reprendre un petit peu ces mots très simples dans le chapitre 15 de Saint Jean. Un deuxième point, sur ce verset, nous ne rapprochons pas trop vite la question « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ?» Parce que nous pensions que c'était passé tout ça. Mais non. Regardez au plan humain déjà. Dans une belle amitié, comme celle dont nous avons parlé tout à l'heure, qui échange des biens véritables, qui sont nobles et qui sont des choses belles, dans l'amitié humaine, il y a comme une écoute, non seulement bienveillante, mais le cœur de l'ami reçoit pleinement la parole de l'ami, garde et n'est pas distrait par la voix et la parole de l'ami. Au contraire, il l'attend. Et ensuite, il va pouvoir parler librement comme si ce qu'il disait ne sortait pas de son cœur, dans le sens où l'amitié garde aussi les secrets, au sens noble du mot. L'amitié ne diffuse pas le contenu du dialogue. Et donc, quand Jésus dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui gardera ma parole », c'est quelque chose aussi qui peut nous parler beaucoup, parce que nous le savons déjà dans l'amitié humaine. Mais quand il s'agit de Dieu qui nous livre toute sa parole intérieure, le Verbe de Dieu, c'est la parole que Dieu se dit à lui-même, eh bien, il nous le donne entièrement dans le Fils unique. Donc Jésus, en nous disant « Vous êtes mes amis si vous gardez mes commandements », n'est pas en train de nous donner un ordre de l'extérieur, mais en train de nous donner la condition de l'amitié avec lui. C'est l'écoute de ce qu'il nous dit. Et déjà, il nous parle dans les commandements. C'est Dieu qui parle du début à la fin de l'histoire humaine, et c'est le même Dieu qui inspire la Torah juive, c'est le même Dieu qui se montre pleinement en Jésus. « Qui me voit, dit Jésus, voit le Père, la source de tout bien, la source de toute vie. » Donc c'était le deuxième point que je voulais souligner sur « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». La façon même d'entrer dans cette amitié, c'est l'écoute de la parole de Dieu. Celui qui garde ma parole et qui donc ne l'éparpille pas, n'en parle pas n'importe comment, et bien sûr l'écoute et la reçoit, celui-là va commencer à goûter l'amitié. Ça va? Bon. On va prendre peut-être un chant. C'est un très beau chant qui reprend les paroles d'Isaïe. Ne crains pas, car je t'aime, je t'ai appelé par ton nom.
Page 37, le numéro 115.
Son serviteur.
Troisième et dernière partie, donc, des lieux spirituels, des rendez-vous certains avec l'amitié du Christ. Il y en a un et puis quatre autres. Enfin, j'en donne un principal et puis quatre autres. Le principal, c'est de prendre Marie chez nous. La présence maternelle quotidienne de Marie est le lieu spirituel absolument certain pour goûter l'amitié du Seigneur. Que veut dire prendre Marie chez nous? C'est vivre avec elle. J'aime beaucoup cette expression des moines chartreux qui disent que Marie, ils la reconnaissent comme la douceur de la vie. Alors c'est intéressant parce que souvent on dit la vie est difficile, la vie est dure, c'est vrai. Et les moines chartreux disent, reconnaissons Marie, sa présence, comme la douceur de la vie. Je vous invite à prendre du recul et à mesurer combien, lorsque vous êtes en attitude de paix intérieure, bien des choses apparaissent, même au milieu des épreuves, comme un reflet de tendresse. Tant de paroles, tant de gestes dans l'humanité quotidien qui sont empreints de beaucoup de bienveillance dans la vie ordinaire, et surtout chez les petites gens, qui évidemment seraient très surprises qu'on dise que, eh bien, ils sont un reflet de cette douceur de la vie, les délicatesses, les entraides mutuelles, etc. Donc je mettrai ce rendez-vous avec Marie comme un fil conducteur de tous les rendez-vous de la grâce. Et puis j'énumère quatre rendez-vous certains. Le premier, c'est la prière. Le second, c'est l'Eucharistie. Le troisième, c'est le sacrement du pardon. Et le quatrième, c'est la lecture chrétienne et le visage de tous les frères, de chaque frère ou chaque sœur. Donc premièrement, la prière. Comment nous rendons-nous à la prière? Avec quel esprit intérieur? Je parle ici de la prière personnelle et de la prière liturgique, car jamais nous ne devons opposer l'un à l'autre. Avec quel sentiment je me rends le dimanche à l'assemblée de prière, à la messe, pour former la communauté des frères, qui est l'étymologie certainement la plus ancienne de l'Église? Une communauté de frères convoqués, appelés dans l'amitié divine. Peut-être nous pourrions aller à la prière comme un amoureux va retrouver sa fiancée, en courant, en étant tout de suite disponible, heureux de ce qui va venir dans ce temps de rencontre et que je ne connais pas. Nous allons à la prière parce que Jésus nous y promet l'Esprit Saint. Ceux qui demanderont l'Esprit Saint, cela leur sera donné. Il a promis que la porte ne serait jamais fermée pour ceux qui frappent. Et donc la prière devient non seulement une nécessité, mais le lieu où le désir se trouve avivé de la vie véritable. Et nous éprouvons davantage que nous sommes des êtres assoiffés d'Esprit Saint, mais que tous nos contemporains, au fond d'eux-mêmes, aspirent à une vie bonne. Que nous nous trouvons pleinement dans cette réception du don de Dieu. Prier, c'est le fait de ceux qui se savent et qui se reconnaissent pauvres. La prière, évidemment, n'est pas possible pour les riches. Je ne parle pas des riches matériels ici, de ceux qui pensent que leur cœur est déjà comblé. Ils ont ce qu'il faut. Ah ben alors, à ce moment-là, il n'y a plus de place pour recevoir quoi que ce soit. Dans la prière, nous demandons notre pain quotidien Et nous le demandons seulement pour aujourd'hui. Regardez aujourd'hui les inquiétudes inimaginables de notre monde touchant aux sécurités pour demain. Que de soucis. Je me souviens d'une vieille amie marseillaise qui m'avait dit « Mon père m'a dit, son vieux père humain, que le souci du travail à faire fatiguait plus que le travail lui-même. » C'est vrai. Je sens les femmes qui travaillent souvent plus que les hommes réagissent. Là. Non, pardon, messieurs, excusez-moi. Il y a des exceptions, même chez les hommes, hein, et chez les femmes aussi. La paresse n'est pas simplement l'apanage des gens du Sud masculins. Comme c'est vrai. Et le peuple de Dieu dans le désert était invité à ramasser, à se pencher humblement par terre, d'une certaine façon à toucher la terre, c'est ça l'humilité d'ailleurs, pour recueillir la nourriture de chaque jour, ça s'appelle la manne. Mais ils ne pouvaient pas la recueillir pour demain, seulement pour aujourd'hui. La prière est quelque chose comme cela. Recevoir la nourriture suressentielle pour la partager, mais rien que pour aujourd'hui. Et Jésus lui-même dit « Demain sera inquiet pour lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Quoi de plus certain que ceci, la providence, c'est-à-dire la manière concrète avec laquelle nous percevons l'action de Dieu dans le monde, se lèvera pour nous avant même le soleil. Et le soleil se lève de manière absolument certaine, il dépend de nous laisser éclairer, de nous laisser réchauffer. Et la prière est toujours ce rendez-vous certain avec l'amitié de Dieu. Deuxième rendez-vous certain de cette grâce, l'Eucharistie, c'est la réalisation de l'intention la plus profonde de Jésus de demeurer en nous, avec nous, que nous soyons un avec lui comme il est lui-même avec le Père. Nous parlons aujourd'hui d'une manière très belle de la messe en prenant ce vieux mot de Eucharistie qui est, au sens moderne du mot en grec, ça veut dire merci, qui est l'action de grâce, qui est encore plus que la bénédiction, on pourrait dire, mais c'est l'action de grâce de Jésus. C'est sa joie à lui qu'il nous communique, cette joie qui s'épanouit pleinement le matin de Pâques, quand il devient visible aux yeux de la foi que la mort est vaincue, que ce qui divisait les hommes entre eux est derrière nous, que la souffrance est derrière nous. Je voudrais dire juste une chose là-dessus avant de passer au troisième et quatrième rendez-vous brièvement, parce que le temps avance. Parfois, nous nous lamentons qu'il y ait peu de gens à la messe et que tant de chrétiens de baptisés vont à la messe en disant « Je ne vois pas pourquoi j'irai si je n'ai pas un désir intérieur, c'est hypocrite, disent-ils. Que veut dire une pratique si je ne ressens pas intérieurement la nécessité ?» Et nous nous disons « Mais d'abord, tu te rends présent à toi-même quand tu vas à la messe. Est-ce que tu n'appartiens pas au corps et est-ce que ton appartenance au corps, c'est simplement quand tu sens le corps? Non. Et donc, si tu te coupes du corps visible qu'est l'Église, comment peux-tu continuer d'être vivifié par le sang qui irrigue ce corps? Il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire par là que la messe est d'abord le retrouvaille avec des frères. Je ne vais pas à la messe individuellement pour recevoir Jésus dans mon cœur seul. Je suis constitué membre vivant du corps du Christ quand je participe à l'assemblée eucharistique. Et l'Eucharistie est inséparablement le fait de retrouver les frères et le fait d'être trouvé par le Christ. Et puis j'ajoute, peut-être ça peut aider certains aussi, que le degré de notre désir reste infinitésimal et souvent presque nul à côté du désir du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit « Échauffez votre cœur pour venir à la messe », il a dit « Moi j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». Et si nous aimons, nous partons de l'autre et pas de nous-mêmes. Voilà quelques indications qui peuvent aider ceux et celles qui autour de nous quelquefois se disent « Mais est-ce que c'est vraiment fructueux que d'aller régulièrement à ce rendez-vous eucharistique ?» Troisième rendez-vous certain, je ne vais que l'esquisser, c'est le pardon. Vous savez, Catherine de Sienne disait que c'est un baptême dans l'Esprit Saint que de recevoir la grâce du sacrement de réconciliation. Il y a là un lieu certain de l'amitié du Seigneur. L'ami est celui qui ne nous regarde pas par notre mal, mais qui souffre de notre mal et qui reste en silence devant le péché, non pas du tout pour l'excuser et encore moins pour en être complice, mais parce qu'il ne veut pas humilier l'ami. À combien plus forte raison le Christ, qui prend sur lui notre misère et nos péchés et notre mort elle-même, nous rétablit dans une amitié avec lui, dans ce sacrement certain de recréation, de Pentecôte. Et dernier rendez-vous, certain aussi de l'amitié avec le Christ, la lecture, l'écoute, la lecture chrétienne et le visage des autres. J'esquisse simplement ceci. La lecture spirituelle n'est pas uniquement la lecture formelle de l'Écriture sainte, mais tout ce qui, de près ou de loin, va nous faire goûter la parole de Dieu. Et toute lecture bonne, nourrissante, que nous faisons calmement, pas en zappant, pas en allant très vite comme on lit les titres du journal, mais en laissant les paroles s'imprégner en nous, est aussi un lieu spirituel où l'Esprit Saint travaille plus profondément en nous. Et cette lecture nous permet aussi, les lectures, de mieux nous comprendre dans notre mystère et du coup d'être plus à même de rencontrer les autres sans dramatiser les différences, sans dramatiser les oppositions. Capacité d'écouter les autres, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux. Capacité aussi d'affronter les difficultés, mais de toujours être suffisamment réceptif pour laisser le Seigneur nous montrer dans le visage de tout frère humain, toute sœur humaine, chrétien ou pas bien sûr, un reflet de son visage à lui, le Christ. Et ça, c'est quelque chose d'absolument certain. Ce que vous faites aux plus petits d'entre mes frères, déjà de les considérer comme des vis-à-vis, comme des frères et des sœurs à égalité avec vous, c'est moi, d'une manière absolument certaine, que vous servez, nous dit le Christ. Et là, ça ouvre des perspectives infinies. Et où nous percevons, nous devinons, je finis par là, que ce que les autres appellent notre pratique religieuse, que nous n'appelons pas ça comme ça, est non seulement pas quelque chose d'à côté de notre vie, mais qu'il y a une circulation permanente de notre vie concrète avec l'écoute de la parole de Dieu, la réception des sacrements et l'expérience même de l'amitié du Christ. Merci beaucoup de votre attention. On a un petit moment donc maintenant avant l'Eucharistie.